VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Conakry, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Togo, la coalition de 18 partis d'opposition qui avait organisé les manifestations massives de la semaine dernière a demandé à ses militants et à la population de manifester dès aujourd'hui pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé du pouvoir et des réformes constitutionnelles. La coalition a également exhorté ses partisans à se réunir vendredi pour un meeting politique dans le centre de Lomé, la capitale, et à se rassembler pour de nouvelles marches mercredi 20 et jeudi 21 septembre. En Guinée, les élections locales réclamées par l'opposition et attendues depuis 2005 ne devraient pas avoir lieu d'ici à la fin de l'année. C'est la conclusion à laquelle est parvenue hier une réunion du comité de suivi du dialogue interguinéen. Des élections locales, les premières depuis 12 ans, auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier piétinent malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Condé le respect de ces accords. Politique en RDC, la société civile congolaise propose maintenant son propre calendrier électoral et invite les autorités de Kinshasa à faire de même pour sortir le pays du statu quo. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon ce chronogramme fictif de la société civile, l'élection présidentielle aurait lieu le 31 décembre avec convocation du corps électoral au 1er octobre 2017 et une campagne électorale du 1er au 30 décembre. Abraham Diamba, coordonnateur d'une plateforme qui regroupe plusieurs organisations congolaises de défense des droits de l'homme, invite la commission électorale à lever les incertitudes ambiantes sur la tenue des élections devant, selon lui, mettre fin à la crise de légitimité institutionnelle que connaît le pays depuis fin 2016. Pour la société civile, cette proposition du calendrier tient compte des délais convenus dans un accord pouvoir-opposition prévoyant la présidentielle fin 2017. Les autorités congolaises ont récemment promis de publier incessamment un calendrier électoral réaliste après avoir recensé plus de 40 millions d'électeurs, soit près de 99% du corps électoral. Le recensement n'a cependant pas encore commencé dans la région troublée du Kasaï. La RDC traverse une crise politique liée au maintien au pouvoir de M. Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter.
La France a exhorté le président tchadien Idriss Déby Itno lundi à annoncer prochainement un calendrier pour les élections législatives. Le président Déby avait renvoyé ses élections à 2019. Bagassi Koura.
Les législatives avaient été repoussées sine die en février dernier par le président Déby au pouvoir depuis 1990 et réélu pour un cinquième mandat en avril 2016 à l'issue d'un scrutin contesté. Arguant d'un manque de moyens, le chef de l'État avait déclaré que les élections législatives n'auraient pas lieu avant 2019, suscitant la colère de l'opposition. Les élections législatives sont un moment important dans la vie démocratique. Nous espérons à cet égard que les autorités tchadiennes, dont c'est la responsabilité exclusive, seront en mesure d'annoncer prochainement un calendrier. Déclaration d'une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Allié stratégique de la France dans la lutte contre les djihadistes au Sahel, le Tchad a bouclé vendredi dernier à Paris une opération de séduction auprès des investisseurs qui ont promis, selon lui, quelques 20 milliards de dollars pour relancer son économie, une économie plombée par la fin du mirage pétrolier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Zimbabwe, l'ONG de lutte contre la corruption Global Witness, accuse les autorités zimbabwéennes de détourner les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques, et ce malgré les sanctions de la communauté internationale. Au micro de Yakuba Ouedraogo, écoutons Allium Leroy, chargé de campagne à Global Witness.
En 2006, il y a eu la découverte d'énormément de diamants dans une région est du Zimbabwe qui s'appelle la région du Marange. Et ça a été une des plus grandes découvertes de l'histoire en termes de nombre de diamants. Et 10 ans plus tard, en 2016, le président Mugabe donne un discours dans lequel il annonce qu'il manque des milliards d'argent dans les finances publiques qui devaient provenir de ces diamants. La question est comment est-on passé de cet espoir en 2006 à cette déception en 2016. L'argent qui provenait des mines du Marange tranches ont été accaparées par les forces de sécurité du Zimbabwe et le gouvernement. Les entreprises qui minaient le diamant sont liées ou sont sous le contrôle des forces militaires du Zimbabwe, du gouvernement et aussi du service de renseignement.
Donc cet argent provenant de l'exploitation et de la vente des diamants ne rentrait pas dans les caisses de l'État.
Le système est tellement opaque, si vous voulez, qu'il est difficile d'outir où l'argent terminait. Mais en effet, il semblerait que l'argent ait fini principalement dans le budget des forces de sécurité du Zimbabwe.
À qui on vend le diamant ?
Vous le retrouvez à Dubaï ou à Anvers. Et c'est tout là le problème. Ces diamants qui permettent de financer les forces de sécurité du Zimbabwe qui ensuite, elles, commettent des violations des droits de l'homme. Là, on a un problème vis-à-vis de la définition du processus de Kimberley qui, lui, se borne à dire que les diamants qui ne devraient pas être vendus et qui devraient être mis sous embargo sur le marché international sont des diamants qui proviennent de groupes rebelles qui tentent de mettre fin à un État. Mais là, on a un gouvernement qui mène ces violations des droits de l'homme. Il est important que les entreprises fassent en sorte que les diamants qu'elles achètent ne financent pas des violations de droits de l'homme.
En quoi est-ce illégal pour un État, notamment le Zimbabwe dans le cas d'espèce, d'utiliser la vente de ces diamants, par exemple, pour financer ses services de renseignement ?
Normalement, dans une démocratie, le service de sécurité se doit d'être neutre. Il doit être sous le contrôle du gouvernement. Et ce qui se passe avec ce financement parallèle autour du diamant qui permet aux forces de sécurité du Zimbabwe d'avoir leurs propres ressources, elles font qu'elles ne dépendent plus du gouvernement, elles ne sont plus neutres. Elles ne dépendent pas du gouvernement directement, mais c'est le gouvernement et le pouvoir en place qui leur permet d'avoir des intérêts dans les entreprises qui minent le diamant. Il y a un grand risque puisque nous avons l'élection présidentielle en 2018. Et donc l'armée a intérêt à ce que la personne qui reste au pouvoir soit le président Mugabe. Et enfin, un autre des problèmes, et ce qui est important, c'est l'impact sur le développement. C'est que cet argent qui tombe dans les poches des forces de sécurité et du service de renseignement ne tombe pas dans les mains de la population du Zimbabwe.
Vous avez mené votre enquête, le rapport il a été fait. À quoi faut-il s'attendre pour la suite ?
Maintenant, on se bat pour que les entreprises mettent en place des processus pour éviter d'acheter des diamants qui proviennent du Zimbabwe. Parce que si elles font cela, elles financent des forces de sécurité qui commettent des exactions contre leur propre peuple.
Allium Leroy, chargé de campagne à Global Witness. Actualité aux États-Unis maintenant, l'ouragan Irma a été moins destructeur que prévu en Floride, même si son passage a laissé des millions de personnes sans électricité et des routes impraticables, compliquant le retour chez elles des personnes évacuées. Les mauvaises nouvelles sont venues par contre de Cuba, à seulement 150 km de la Floride, Jean-Roger Bion.
Au moins 10 personnes sont mortes dans plusieurs provinces de Cuba, portant le nombre de victimes à une quarantaine de morts dans les Caraïbes. Le Venezuela a annoncé l'envoi de 10 tonnes d'aide à son allié cubain. En Floride, le bilan humain a été actualisé lundi à 2 victimes, contre 3 auparavant qui ont perdu la vie dans des accidents de la route. 6,2 millions de Floridiens sont toujours privés d'électricité et Irma, désormais rétrogradée en tempête tropicale, se trouvait lundi dans le sud de la Géorgie avec des vents faiblissant à 85 km/h et devait prendre mardi la direction de l'Alabama. Des inondations soudaines sont encore à craindre dans les prochains jours. Les dégâts sont estimés entre 20 et 60 milliards de dollars, selon plusieurs experts en assurance. L'aéroport international de Miami, qui a connu des inondations, a été fermé et ne devrait reprendre qu'un service limité à partir d'aujourd'hui. Le président américain Donald Trump, qui a proclamé dimanche l'état de catastrophe naturelle en Floride, a annoncé qu'il se rendrait très vite dans l'état.
Tension dans la péninsule de Corée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité lundi une nouvelle résolution de sanctions contre la Corée du Nord, prévoyant notamment des limitations dans son approvisionnement en pétrole et en gaz. Cette mesure représente le 8e train de sanctions contre Pyongyang en vue de punir le régime nord-coréen pour son dernier essai nucléaire du 3 septembre. Le texte a été adopté à l'initiative des États-Unis. Et pour terminer, l'ONU, qui dénonce un nettoyage ethnique en Birmanie, va réunir aujourd'hui son Conseil de sécurité pour discuter de la crise des Rohingyas, dont plus de 300 000 se sont réfugiés au Bangladesh depuis fin août pour fuir les violences dont ils sont victimes en territoire birman. Le Dalai Lama en personne a exhorté lundi la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix comme lui, à trouver une solution pour les Rohingyas, une population en majorité musulmane qui constitue la plus grande communauté apatride au monde avec un total d'environ 1 million de personnes. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.